Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu. C'est de l'éternel inconnu que nous recevons ce matin encore la grâce, la joie et la paix au cœur même de notre existence. Et ce matin, nous entendons bien célébrer cela, célébrer une vie en abondance qui nous est offerte par grâce seule. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 86, la première strophe de ce psaume qui ponctuera notre culte, psaume 86, première strophe. Comme si le désespoir envahissait toutes nos pensées Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise notre vie, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence. Tu viens ouvrir l'espace de ton règne. Tu viens construire des ponts par-dessus tous les murs et franchir toutes les impasses. Voilà ce que tu permets. Alors, de grâce, viens encore à notre rencontre pour ouvrir notre espace, pour bâtir de nouveaux ponts, pour ébrécher nos impasses. Oui, fais-nous encore cette grâce. Amen. Chantons la quatrième strophe du psaume 86.
Je crois en Dieu,
Par lui, l'univers et notre existence se sont toujours créés à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus, prophète, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu, qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont son espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle, connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Elle rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Elle nous fait découvrir que l'amour est plus fort que la mort. Amen. Frères et sœurs, chantons Dieu avec le cantique 245. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 245.
Et la brique leur servit de pierre.
leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons là et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville, et c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je propose de chanter la troisième strophe du psaume 86 avant de descendre nous aussi du côté de Babel. Psaume 86, strophe 3. Passons ainsi. Chers frères et sœurs, ce récit de la tour de Babel n'est pas un mythe, ou, pour le dire plus précisément, à la manière de tous les mythes, qui sont des récits écrits pour nous faire découvrir des aspects de la vie qui ne sont pas visibles à l'œil nu. L'épisode de la tour de Babel parle de la vie non pas telle qu'elle a pu être dans des temps immémoriaux, mais de la vie telle qu'elle est encore aujourd'hui. La tour de Babel n'est donc pas simplement un récit venu de l'Orient, à l'époque où tout allait à peu près bien sous le ciel. La tour de Babel, elle est à notre porte. Je dirais à une bonne heure de voiture, en direction des Pyrénées. La tour de Babel, voilà comment était nommé le camp de Grisette. Dans les Pyrénées orientales. Cela, c'était au milieu du siècle dernier, hier. Aujourd'hui, on y trouve un mémorial que l'architecte Rudy Ricciotti a pensé de telle sorte qu'il nous plonge dans les entrailles de la désolation, tout en produisant un béton chaleureux qui déclare que la douceur est néanmoins possible dans un lieu qui n'a pas été pensé pour encourager l'humanité. Au printemps 1941, on y comptait 16 nationalités différentes. Près de 9 personnes sur 10 étaient des étrangers. 55% d'Espagnols, 15% d'Allemands, 10% de Polonais. Pourquoi des Allemands et des Polonais dans des camps en France, dans les années 40. Mais parce qu'ils étaient juifs, bien sûr. 40% des personnes internées au camp de Rivesaltes étaient juives. 7% étaient tziganes. Entre janvier 1941 et novembre 1942, 17 500 personnes seront passées par le camp de Rivesaltes. Mais Rivesaltes, ce n'est pas seulement cette période. Revenons un instant avant, pour mieux comprendre l'histoire de ce lieu. le 12 novembre 1938 et promulguer le décret au sujet de la loi instituant l'internement administratif pour, je cite, étrangers indésirables. 1938. Que permet ce décret? Ce décret permet l'arrestation et l'internement de personnes, non pour des crimes ou des délits qu'elles auraient commis, mais pour le danger potentiel que ces personnes sont censées représenter pour l'État. Le 26 janvier 1939, nous sommes de l'autre côté des Pyrénées, les troupes du général Franco entrent dans Barcelone, les civils, les militaires, les officiels de la République d'Espagne fuient vers la France pour trouver un refuge. Deux jours plus tard, le 28 janvier 1939, la frontière est ouverte aux civils. Le gouvernement français envoie les réfugiés dans des camps construits à la hâte. De réfugiés, les Espagnols deviennent des internés. On estime que cet exil, dont vous connaissez le nom parce qu'il a été affiché sur tous les abribus de la ville avant qu'il se fasse détruire, c'est la retirada, retirada. 500 000 personnes. La France accueille 500 000 réfugiés à ce moment. J'ouvre une parenthèse, cela peut nous aider à penser la question de l'accueil des réfugiés aujourd'hui, bien évidemment. 500 000 personnes. Le 5 février 1939, l'armée de la République espagnole passe également à son tour la frontière. Les soldats sont désarmés, ils sont conduits dans des camps précaires installés à même les plages du littoral. Après cet épisode de la guerre d'Espagne, donc, durant la Seconde Guerre mondiale, le camp de Rivesaltes fut l'équivalent de Drancy pour la zone sud. C'est lorsque Vichy décida de livrer les Juifs à déporter dans les camps de concentration. Rivesaltes fut ensuite un camp de séjour surveillé au moment de l'épuration, puis un dépôt de prisonniers de guerre allemands et autrichiens, jusqu'en 1948. L'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. Il fut par la suite un centre pénitentiaire pour les nationalistes algériens, un camp pour les harkis, et finalement, un centre de rétention administrative pour les étrangers en séjour irrégulier en France de 1986 à 2007. 2007. Rivesaltes, 2007. Vous voyez que ce lieu, et d'autres qui furent semblables, et porté le nom de Tour de Babel, exprime admirablement bien le paradoxe que contient ce récit de Genèse 11 qu'on lit toujours trop vite. Lu rapidement, et compris à la lumière d'un Dieu en forme de justicier qui punit ceux qui se comportent autrement que selon l'ordre établi, selon la morale, et bien le récit de la Tour de Babel pourrait faire penser qu'il y eut un âge d'or de l'humanité où tout le monde parlait une seule langue et qu'à partir du moment où l'humanité décida de rejoindre Dieu, Dieu fut pris d'un accès de colère, voulant garder l'exclusivité de sa majesté et qu'il châtia l'humanité en multipliant les langues pour rendre tout projet commun impossible et éviter que l'humanité ne devienne comme Dieu. Une lecture plus attentive du texte révèle qu'il en va tout autrement dans ce texte. Pourquoi, au verset 7, Dieu brouille-t-il les langues, de telle sorte que, je cite, « les humains n'entendent plus le langage les uns des autres ». Eh bien, cela est dit au verset précédent. Lorsque Dieu descend pour voir ce qui se passe dans cette ville qu'ils sont en train de bâtir, l'observation qui est faite par Dieu lui-même est, je cite, « voilà, un seul peuple, ils parlent tous le même langage, voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. » Le problème n'est pas la Tour de Babel et l'illusion qu'il serait possible d'atteindre le ciel, lieu où Dieu est supposé être. Le problème est dans la langue unique. Le problème, c'est l'unicité. Je ne dis pas l'unité, je dis l'unicité. Le problème est que tous les habitants de la Terre veuillent se faire une ville, une tour, un nom. Le problème, c'est le 1. C'est la tentative des habitants de la Terre d'instituer un régime de pensée unique. Et ce projet est bien attesté dans le Proche-Orient ancien. C'était le projet de l'empire voisin d'Israël, en fait, qui, dans un geste conquérant, voulait ramener le monde à sa vision des choses. C'était le projet de standardisation totale. La Syrie attaquait le royaume du Nord, Israël. Que faisait la Syrie? Elle prenait un peu de population qu'elle venait mettre à sa marque. Et hop, standardisation absolue. L'Empire romain ne fera pas vraiment autre chose à vrai dire. C'est la logique de l'Empire. C'était le projet de standardisation totale qui consiste à dicter à chacun quelle est son identité, quelle est sa place, ce qu'il doit faire et, si possible, ce qu'il doit penser. Ce projet, on le sent bien, a plusieurs noms, une sorte de monstre hybride. On peut l'appeler la dictature qui dicte, le totalitarisme qui gère la totalité des personnes et des aspects de la vie quotidienne. On peut aussi appeler l'absolutisme qui pose qu'un point de vue a un caractère absolu contre tous les autres. Eh bien, ce texte biblique de Genèse 11 offre une vision alternative. Ce n'est plus le 1 qui est recherché. Ce n'est plus l'unicité qui est visée, c'est la pluralité. La réponse de Dieu, c'est le pluriel. Ce n'est plus le conforme qui est voulu, c'est le divergent qui est encouragé. Et même valorisé. À l'opposé d'une vision d'empire, les rédacteurs bibliques proposent ici un monde multipolaire. Non pas une globalisation qui standardise, et qui standardise tout, qui norme tout, qui réglemente tout, mais une mondialisation qui maintient les différences et les relie les unes avec les autres. L'histoire du temps de Rizal montre que le monde biblique était en fait à l'intérieur du camp de l'exode. Parmi les réfugiés, parmi les internés, parmi les déplacés. C'est au sein du camp que se trouvait une population correspondant à l'idéal biblique, alors que les promoteurs du camp, ceux qui se tenaient autour, ceux qui gardaient le camp, ceux qui faisaient rentrer les gens dans le camp, ceux qui maintenaient la frontière du camp, eux, était dans une vision d'empire. Et c'est cette vision qui est combattue par les rédacteurs bibliques. La tour de Babel était à l'extérieur du camp de Rizal. L'histoire du camp de Rizal éclaire le récit de la tour de Babel en remettant chaque chose à sa juste place. Et nous rend ce récit beaucoup plus familier qu'une lecture superficielle qui considère que c'est un mythe fait pour autrefois. Un mythe qui nous aide à penser aujourd'hui, et notamment la question de l'Europe. Car l'Europe n'est pas simplement un objet politique dont il sera possible de dire quelque chose au moment des élections au Parlement dans quelques semaines. L'Europe peut être aussi une manière de donner chair ou non à notre théologie. Selon qu'on se place du côté de l'Empire, ou du côté du rédacteur biblique, notre vision de l'Europe sera différente. Selon qu'on se place du côté de ceux qui veulent la pensée unique, ceux qui veulent une pureté de l'identité, conforme à ce qu'ils sont, ou qu'on se place du point de vue biblique, qui promeut la pluralité, notre rapport à l'autre s'en trouvera profondément différent. Et notre manière de vivre se trouvera elle-même profondément impactée. Si Dieu est promoteur d'unicité, on peut faire cette hypothèse, certains le font, alors nous défendrons une structure politique qui favorise la monochronie culturelle, et notre patrie sera celle de la langue unique, du nom unique, de la frontière sociale unique, et ainsi de suite. Si notre Dieu est promoteur de pluralité, alors nous défendrons un modèle politique qui favorise la pluralité culturelle, et notre patrie sera celle du dialogue, de la diversité des identités et de l'ouverture. Le professeur d'histoire Pierre-Olivier Deschamps, qui est doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, rappelle comment une partie du protestantisme a milité en faveur d'une république des lettres à dimension européenne, notamment sous l'impulsion de Pierre Bayle. Je le cite. Une Europe protestante existe bel et bien dès le XVIe siècle. Celle-ci n'est certes pas centralisée, concentrée sur Rome et l'enseignement de la papauté, même si l'Europe catholique a assumé aussi une part de diversité. Je continue la citation. L'Europe protestante, c'est d'abord celle des réseaux, des correspondances théologiques, des correspondances érudites, se recoupant partiellement avec la fameuse République des lettres, lancée par Erasme et portée au nu par Pierre Bayle. Cette Europe, c'est aussi celle des universités, des académies, conçues comme lieu de rencontre, de dialogue, et parfois de confrontation d'identités étudiantines, se recoupant, mais ne s'identifiant jamais totalement. Une Europe intellectuelle, donc, mais surtout une Europe intelligente, en constant échange et qui pense de manière critique. Fin de citation. Cette Europe du XVIe siècle, voulue par quelques protestants, est une Europe sans centralisme, sans univocité, sans standardisation. Pas de réduction à un plus petit commun dénominateur. Et dans ce récit de la Genèse, au chapitre 11, Dieu est ce qui brise aussi les situations de monopole. Plus de vision d'empire, plus de centralisation autour de Rome, par exemple. Dieu, c'est ce qui fracture la globalisation. C'est ce qui interrompt le processus de fusion-absorption. Dieu, c'est ce qui arrache l'humanité à un fantasme d'uniformité. Nous aurions tous les mêmes racines, de préférence chrétienne, et par conséquent, tous les fruits devraient être semblables. La recherche de racines uniques, c'est évidemment la recherche de fruits uniques. En agissant sur la variété des langues, Dieu, dans ce récit, agit sur l'identité profonde de chaque être, parce que l'identité profonde de chaque être se fonde et se structure sur la langue. Notre personnalité dépend intrinsèquement de notre langue maternelle. Celle que nous pouvons encore articuler, même lorsque nous avons perdu toute conscience de nous-mêmes. Cette langue que l'on ne perd jamais totalement, jusqu'au moment où finalement nous sommes totalement handicapés et nous ne pouvons plus être nous-mêmes. Mais la langue est bien la dernière chose qui nous reste. Et même lorsque nous avons appris une autre langue qui est devenue notre langue véhiculaire, au dernier moment, c'est notre langue maternelle, notre langue profonde qui rejette, parce qu'elle nous structure intimement. Agir sur la langue, c'est agir sur l'identité. Chaque individu développe vraiment une langue particulière. Nous n'en avons pas forcément conscience dans nos assemblées, parce que nous avons l'idée que nous parlons tous la même langue. Ce qui est bien sûr complètement faux. On ne comprend jamais vraiment ce que l'autre nous dit. Il faut vraiment faire ce travail d'interprétation pour rejoindre l'autre dans son univers culturel et comprendre ce que les mots qu'il dit signifient pour lui-même. Nous cherchons les mots d'expérience personnelle qui n'appartiennent qu'à nous. La langue est infiniment plus personnelle que toute autre chose. Agir sur la langue n'est donc pas du tout anodin. N'avoir plus qu'une seule langue, ce serait avoir un seul psychisme, une seule personnalité. qu'une seule langue, ce serait une manière un peu folle d'aboutir à ce que tout le monde pense la même chose au même moment. Et c'est ce rêve un peu fou qui est véhiculé par certains, qui veulent une culture unique. Ce serait en venir à ce qu'il n'y ait plus besoin de parler, en fait, parce que nous saurions déjà ce que l'autre pense, puisqu'il penserait exactement la même chose que nous. Et ce serait ce fantasme d'avoir des communautés qui rassemblent des personnes qui ont la même pensée et évidemment, pour ce qui nous concerne, la même foi. Comme s'il fallait que nous ayons toutes et tous la même foi, une foi unique. Comme si, dans une famille, tous les enfants avaient exactement la même relation à leurs parents. Comme s'il fallait qu'il y ait une standardisation des enfants. En agissant sur la langue, en créant des variétés, des variations, Dieu est présenté par le rédacteur biblique comme ce qui autorise chacun à développer sa propre personnalité et à la mettre en jeu avec les autres personnalités. Chacun est autorisé à vivre sa propre vie et non à se conformer à un modèle global qui s'imposerait coûte que coûte. Genèse 11 ne présente pas un Dieu en forme de père fouettard qui punirait les humains désireux de se rapprocher de lui. En s'opposant au principe de la tour de Babel, qui réduit toutes les identités à l'identité unique pour tous, Genèse 11 présente Dieu comme cette exigence absolue de ne jamais céder sur notre droit à faire valoir notre singularité dans le concert des personnalités. Genèse 11 présente Dieu comme cette exigence absolue du foisonnement de la pensée, de la créativité, de la variation, de l'originalité, de l'ouverture sur toute la surface de la terre. En Genèse 11, Dieu est tout l'inverse de l'enfermement. En Genèse 11, Dieu est tout l'inverse de l'enfermement. En Genèse 11, Dieu est tout l'inverse du rétrécissement. En Genèse 11, Dieu est tout l'inverse d'une vision étriquée, d'une vision du confinement des personnes. Genèse 11 présente Dieu comme ce qui redéploie l'existence pour qu'elle soit toujours tendue vers l'infinité des possibles. Genèse 11 présente Dieu comme le promoteur non pas d'une patrie à langue unique, mais comme le promoteur d'une patrie aux mille langues. Amen. Frères et sœurs, je propose de prendre le cantique 428. Nous pourrons y chanter les strophes 1, 2 et 4. Et levons-nous pour exprimer notre désir de servir le Père Céleste.
Bonjour, je vous invite à un déplacement dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous sommes le 18 septembre 2010, dans l'espace, nous sommes au Rwanda. Voilà ce qu'écrit RFI, Radio France Internationale. Au Rwanda, Déo Mushayidi est un opposant peu ordinaire. Ce Tutsi, qui a perdu des membres de sa famille, beaucoup de membres de sa famille pendant le génocide, était un ancien cadre du Fonds patriote rwandais du président Kagame. Il avait même travaillé dans les services de renseignement du FPR avant de devenir journaliste. De 1996 à l'an 2000, il est président de l'Association rwandaise des journalistes. Il commence à devenir assez critique contre le régime. Menacé, il part en exil en Belgique, dénonçant les dérives autoritaires du président Kagame, avec qui donc il allait travailler. Il fonde alors le Pacte de défense du peuple, un parti de la diaspora. Depuis quelques mois, il circulait dans la région avec un passeport burundais, mais sous un faux nom. Il a été arrêté en Tanzanie avec un visa périmé, transféré au Burundi le 3 mars. Il a été remis le 5 aux autorités rwandaises. Déo Mushayidi a été reconnu coupable de fausse déclaration pour l'obtention d'un passeport burundais, propagation de rumeurs incitant à la désobéissance civile et recrutement d'une armée pour agresser le pouvoir en place. Selon son avocat, c'est ce dernier chef d'accusation qui lui vaut cette condamnation à perpétuité. Deon Chengdi, lui, clame son innocence, reconnaissant seulement les fausses déclarations sur son passeport. Son avocat va faire appel. Nous étions en 2010, l'avocat fait appel. 2 ans plus tard, cet appel n'a pas abouti. Ce qui fait que, depuis 9 ans, Deon Chengdi croupit dans une prison rwandaise. Et ceci alors que le président Paul Kagame a libéré plus de 1000 opposants à son régime. Il semblerait que la communauté internationale ait oublié cette belle personne dans le coin de sa geôle. Il nous revient, au moyen de cette carte, que vous trouverez à la fin, à la sortie du temple, en l'affranchissant, en la signant, en l'affranchissant à 1,30€, il nous appartient de rappeler ce cas à la conscience internationale. Merci.
Vous avez donc sur cette feuille les différentes rencontres qui ont lieu. Je vous rappelle au fait que le temple de Maglone est ouvert chaque mardi de midi à 14h pour permettre aux Montpelliérains de venir le découvrir, ou à celles et ceux qui souhaiteraient un temps de recueillement dans ce lieu qui n'a rien de sacré mais qui peut être aussi un lieu propice pour le recueillement, de pouvoir le faire. Si certains d'entre vous désirent participer avec l'équipe qui ouvre le temple au rayonnement de ce lieu, vos propositions de présence sont les bienvenues. Adressez-vous à moi. Si vous avez un mardi disponible entre midi et 14h, vous pourrez comme cela prendre votre tour dans la relation des équipes d'accueil. Et puis, vous voyez que dans les différents secteurs, de nombreuses activités sont organisées aussi bien sur le plan des études bibliques, œcuménique le lundi après-midi à Jacou, le vendredi soir du côté de Morin avec Jean-Noël Poivre. Vous avez aussi des choses plus culturelles, d'ailleurs en lien avec la CAF qui a son festival du cinéma sur les droits humains. Et vous voyez qu'un film sera projeté le samedi 30 à 14h. Cette fois, c'est une jeune palestinienne qui est au Liban et c'est au cinéma des Burma à Seine-Neuve. Voilà, donc vous avez l'occasion de pouvoir rayonner dans toute notre métropole sur des activités très différentes. Et comme il faut bien organiser tout cela, une annonce de faire, annonce d'y faire.
Juste une précision, vos reçus fiscaux, ceux qui n'ont pas eu hier à l'Assemblée générale, pourront venir les chercher derrière le rideau là-bas. Voilà. Si vous voulez venir, ceux qui ont fait des dons, vous aurez votre reçu fiscal. Merci.
Si vous ne trouvez pas votre enveloppe, c'est que rien de grave. Vous avez juste pris le temps de pouvoir donner un don à l'Église, vous pourrez récupérer votre enveloppe l'année prochaine en commençant dès aujourd'hui à faire un chèque à l'Église. Le montant fait quelque chose d'assez indécent dans les hauteurs, à l'ordre de la CEPUMA, A-C-E-P-U-M-A, Association Culturelle Église Protestante Unie Montpellier Agglomération, A-C-E-P-U-M-A, et comme cela, vous aurez votre petite enveloppe l'année prochaine. Toujours est-il que, quel que soit le montant de votre don, il sera le bienvenu et aidera votre Église à pouvoir mener les missions qui lui sont dévolues, donc que votre don soit fait en toute liberté. On peut commencer à recueillir les offrandes. Jésus notre demeure. Ça, c'est une incitation à la récidive. Il y a un petit coup de reviens-y, non? Bon, on verra ça la fois prochaine. Je propose que nous nous unissions dans la prière. Avec les mots de Mère Teresa. Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager. Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. Quand je n'ai vraiment pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager. Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui. Et c'est ce que nous faisons. En faisant l'autre, ces mots que Jésus a laissés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu, après quoi nous aurons donc l'occasion de nous retrouver dans l'espace France-Guéret. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chantons la première strophe du cantique 616, cantique 616, chantons la première strophe.